Bonjour, bienvenue dans le podcast Focus Écran. C'est parti pour un tout nouveau numéro. Après une petite semaine de pause, on est de retour pour commenter toute l'actu média de la semaine. Dans la bonne humeur, évidemment, une actu média encore chargée cette semaine. Dans un instant, dans les débats, on va parler du retour du juste prix. C'était cette semaine sur M6. On vous donnera les audiences. On parlera, on verra ce qu'en ont pensé les chroniqueurs. On parlera également toujours d'M6 qui va lancer un nouveau talk avec Ophélie Meunier le samedi soir en access. On en parlera, on vous donnera toutes les infos et puis on parlera aussi de ce gros changement pour BFM TV qui va changer de propriétaire, donc qui va quitter le giron Atlis pour rejoindre celui du groupe de Rodolphe Saadé, donc ce nouveau armateur qui est de plus en plus présent dans le monde des médias, qui détient déjà le groupe La Provence, La Tribune et qui a également des parts sur M6 et le Média Brut, donc qui va acquérir BFM avec sans doute des gros changements à venir à la direction et à l'antenne. On en reparlera et puis également dire un petit mot sur la suite de cette commission d'enquête sur l'attribution des fréquences TNT à l'Assemblée nationale avec deux grands invités cette semaine, Vincent Bolloré et Cyril Hanouna. On en reviendra à la fin de l'épisode, si on a le temps, sur quelques propos qui mérite un peu de faire l'objet d'un débat. Pour commenter, ben justement, il faut des chroniqueurs. Et avec nous cette semaine, on a Cédric. Salut Cédric.
Salut Yacine, salut à tous.
Merci d'être avec nous également. Avec nous, on a Benji. Salut Benji.
Salut Yacine, bonjour tout le monde.
Et également avec nous, on a Antoine. Salut Antoine.
Salut Yacine, salut à toutes, salut à tous.
Alors avant de débattre, eh ben c'est tout de suite l'heure du C'est quoi l'info. C'est parti, on joue sur les autres infos médias de la semaine. C'est parti. Donc ce C'est quoi l'info, on le rappelle, hein, le concept c'est simple, je vous donne le nom d'une personnalité, une citation et un chiffre et vous devez retrouver l'info média qui se cache derrière. Et on attaque tout de suite avec cette première personnalité, Laurent Luya. Pourquoi Laurent Luya fait l'actu média?
Benji.
C'est parti, on t'écoute Benji.
Laurent Luya est pressenti pour remplacer Michel Drucker dans...
On t'écoute Benji.
Tu m'entends pas?
Vas-y Benji.
Non, mais je disais que Laurent Luya était pressenti pour remplacer Michel Drucker à la co-présentation de Quel jeu avec Léa Salamé.
C'est ça, bonne réponse en effet. C'est une information de Var Matin que confirme Pure Média. Donc Laurent Luya serait pressenti pour animer le talk de fin de soirée qui sera diffusé sur France 2 durant les Jeux Olympiques avec Léa Salamé. Et comme tu le disais justement, c'était Michel Drucker qui était pressenti, mais vu son état de santé, ça devenait incompatible. Et donc la direction aurait fait le choix de Laurent Luya qui arrangerait aussi le service des sports qui était un peu mécontent d'être un peu à l'écart du dispositif. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce choix-là, brièvement? Laurent Luya, toi, voilà, ça correspond un peu au service des sports, ça convient au service des sports, et aussi c'est le visage des événements sportifs de France Télé, que ce soit le Tour de France ou Roland-Garros, peut-être, Cédric.
Ouais, bah c'est cool, hein. De toute façon, on se doutait que Michel, de son, il nous avait dit qu'il allait pas pouvoir en faire beaucoup, maintenant il peut plus en faire. Bon, c'est normal, hein. Parce que normalement, je crois que cette quotidienne sera quoi? Je crois que c'est à 23h15 jusqu'à plus de minuit, tous les jours, là, pendant les JO, pendant 3 semaines. Donc, c'est un peu difficile pour le Michel. Et puis, de toute façon, comme le service des sports était très mécontent du fait de cette annonce qu'on les ait pas prévenus et que machin, je pense qu'ils sont très contents de mettre au moins Laurent Luya, qui est quand même une figure qui mêle à la fois le sport et un petit peu le divertissement, comme il a pu nous le proposer durant plusieurs années dans Village Départ.
Un Village Départ, mais d'ailleurs qui est supprimé, je crois, ou ils l'ont refait.
Village Départ, non, ça fait un moment que ça n'y est plus. Ce qu'ils ont fait, ouais, c'est Village d'arrivée entre guillemets, hein, pour grossir le trait. Bon, ouais, c'est sûr que c'est pas la même ambiance que machin. C'est plus du débrief de ce qui s'est passé que une grande fête populaire avec des artistes et la culture locale.
Merci Cédric et bravo donc à Benji pour ce premier point grâce à Laurent Luya. On poursuit avec une citation qui a dit cette semaine: tu deviens juste une poupée, ce mot c'est que tu es une prostituée. Qui a dit ça cette semaine? Tu deviens juste une poupée, ce mot c'est que tu es une prostituée. Alors c'est une artiste qui a dit ça cette semaine à propos d'un événement qui fait souvent un gros score d'audience.
Ah, alors c'est sur les Enfoirés?
Non, pas les Enfoirés.
C'est l'Eurovision?
Alors oui, c'est l'Eurovision.
Ah,
oui.
C'est la Zara qui a dit ça.
C'est la Zara.
Bravo,
la Zara.
C'est ça. C'est Cédric qui a le point, en effet. C'est cette semaine, la Zara qui a donné une interview donc à une youtubeuse et elle est revenue sur sa participation à l'Eurovision l'année dernière. On se souvient hein, qu'il y avait...
Oui, elle avait fait un doigt d'honneur.
Ah, oui, c'est ça également.
Non, un toast.
Elle avait fait un toast, précisément. Voilà, faut être précis.
Oui.
Elle avait fait un toast et elle n'avait pas trop cartonné, malheureusement. Et puis ben là, elle revient un peu, un an, quasiment un an après, elle revient un peu sur les coulisses. Et elle dénonce, elle affirme qu'elle a été une sorte d'esclave pour France Télé, que notamment la délégation lui a dit de se teindre les cheveux en blond pour qu'elle fasse moins arabe. Alors, à la suite, Alexandra Redamiel, qui est la chef de la délégation de l'Eurovision en France, a démenti ses propos et elle affirme que c'est, donc, ses propos sont diffamatoires et que. Elle pourrait s'engager à toute action en justice à la suite de ses propos. On le sait que voilà, la Zara elle est plutôt cash, on l'a vu à la fin de sa participation de l'Eurovision. Ses propos, là, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ces propos? Peut-être Benji.
Écoute, je les avais pas entendus, donc du coup, franchement, j'ai pas d'avis sur ça.
Mais toi, so, voilà. Alors là, cette année, ça sera Slimane. On verra Slimane d'ailleurs qui fait plutôt bonne impression. On verra ce que ça donnera au mois de mai. Donc,
mon amour. Pour Slimane, il me semble que même lors d'Energy Music Awards, il y a Laurine qui était là et qu'ils ont fait écouter son morceau et Laurine a bien apprécié. Donc peut-être que c'est déjà un avis pour les bookmakers, on verra bien.
Hein. Je ne sais pas combien, on est, mais je pense que c'est un peu trop tôt là pour les bookmakers.
Je pense qu'on est en 10 parce que les 37 chansons ont été révélées, hein, ça y est.
Oui, voilà, mais c'est encore un
mais
peu...
Mais les bookmakers, ouais, ils travaillent, on va voir.
Bon, on verra ce que ça donnera. Donc un point pour Cédric. On termine ce jeu par une dernière personnalité. Il s'agit de Christophe Dugarry.
Benji.
Vas-y, Benji.
Christophe Dugarry va commenter l'Euro avec Xavier Domergue sur M6. 2020.
C'est ça, en effet. Donc M6 qui... laisse tomber Robert Pires pour Christophe Dugarry qui va donc commenter l'Euro. Et puis globalement, vu avec l'annonce qu'on a eue cette semaine, à mon avis, qui va sûrement faire partie du dispositif de la Coupe du Monde en 2026 avec l'acquisition des droits, l'intégralité des droits de la Coupe du Monde pour M6. Donc ce nouveau choix de Christophe Dugarry, donc on voit un peu, c'est un peu plus populaire que Robert Pires qui était un peu décrié, Benji.
Oui, bah, c'est vrai que bon, les commentateurs de M6 ne sont pas forcément très adulés, contrairement aux commentateurs de TF1 avec Grégoire Margoton et Bichente, donc ça fait pas de mal de changer. Moi je pense que Xavier Domergue est bon, hein. Vraiment je pense que ouais, il fallait plus changer Robert Pires que Xavier Domergue. Donc, c'est un bon choix. Après, si je crois, il faut voir au moment de comment il commente.
On se souvient de l'époque où on avait Denis Balbière, mais c'était la vieille époque, ça. C'était la vieille époque. C'était il y a quelques années. Voilà, donc ça fait un deuxième point pour toi, Benji. Donc, c'est toi cette semaine qui remporte le jeu. Deux points pour Benji, un point pour Cédric. Et pas de points pour Antoine, mais c'est pas grave. Antoine, tu vas avoir l'occasion de te rattraper lors des débats. On va tout de suite attaquer le Ça fait débat. C'est parti. Ça fait débat, on va donc commencer par le juste prix, on en avait parlé il y a quelques semaines, ça y est, donc ça a démarré cette semaine sur M6 à 17h30, et alors globalement ça a plutôt bien démarré, même si à la fin de semaine ça s'est tassé niveau audience, en moyenne ça fait 800 000 téléspectateurs, soit 8,8%
du public,
17,4% sur les ménagères. Alors le meilleur score c'est l'émission de mardi qui a réuni quasiment 1 million de téléspectateurs, et le pire score c'est jeudi, donc avec 713 000 téléspectateurs, soit 8,5% du public. Alors c'est largement mieux que le Château de mes rêves qui tournait aux alentours autour des 500 000 téléspectateurs. Mais il y a quand même il y a eu quelques mécontentements, notamment sur le public un peu bruyant, les règles. Il y a plus le plus ou le moins le vendredi. Alors vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette nouvelle formule? On va démarrer par Antoine. Tiens, est-ce que toi, Antoine, t'as regardé le juste prix sur M6?
Alors, j'ai regardé le premier épisode, le deuxième, le troisième, le quatrième. Bon, voilà, c'était un retour plutôt attendu. Moi, j'ai trouvé qu'Eric Antoine, il était très bien à la présentation. Pas de bafouillage, pas de raté, pas de glissade, rien. Bon, c'était très bien. Et même, j'ai été étonné par le... Je crois que c'est le co-animateur, hein, c'est ça. Je sais plus son nom, mais je sais que c'est celui qui a fait la fameuse chuchu, la chenille synchro. Bon, bref, il est plutôt cool avec Eric Antoine, ce monsieur. Si vous pouvez me rappeler le nom, si quelqu'un sait tout à l'heure.
Je ne veux pas le nom. Mais...
C'est La Pig, enfin, le surnom de La Pig, et c'est Vincent.
Vincent Puget, Vincent,
je sais pas. Vincent Puget, c'est M6, ouais. C'est 8.
Non.
Ouais, mais je sais plus.
Hein. Non,
enfin, oui, bon, c'est pas voilà. Très important, non, enfin. Non, donc toi, après, globalement, t'as plutôt bien aimé ou pas?
Alors, j'ai bien aimé, et surtout, j'ai aimé le retour de certaines épreuves mythiques, comme le tyrolien, il me semble, la caisse enregistreuse, enfin, tous ces jeux, ça donne envie de regarder, de continuer à voir. On est pris par le jeu, et c'est vrai que le public, par contre, il parle beaucoup. Hein, il crie très fort, et parfois, même les candidats ne s'entendent plus sur le plateau. Peut-être qu'il faudrait que le public fasse un peu moins de bruit, mais ça c'est mon avis perso, mais tout le monde peut ne pas penser ça. Voilà.
Et sur la vitrine qui devient
hebdomadaire. Ah oui, la vitrine. Oui. Alors la vitrine, les cadeaux sont quand même pas mal. Hein. Il y a un voyage, il y a des belles choses à gagner, du beau matériel. Bon, en tout cas. C'est vrai que le truc qui me manque, comme vous disiez tout à l'heure, c'est vraiment le moment où il disait c'est plus ou c'est moins. Ça, c'était vraiment.
Ah oui, c'est mythique. Ouais.
Qui nous manque. Mais bon, c'est à la manière d'Eric Antoine. Donc, on voit que il y a des choses qui changent et c'est comme ça, ça évolue dans le temps. Faut pas forcément se lier aux choses du passé et évoluer dans cette nouvelle version.
Alors merci Antoine. Benji, oui. niveau audience, M6 est pour l'instant satisfait, même si ça a baissé en fin de semaine. C'était un bon début de semaine et ça s'est tassé en fin de semaine.
Oui, bah, l'audience du lancement était quand même bonne, puisqu'on était à plus de 900 000 téléspectateurs. Et surtout, ce qui était très 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 encourageant, c'était que ça augmentait pour d'ici mardi, alors qu'en principe, l'effet curiosité, c'est qu'une journée, Bonjour, on a fait les frais dès le mardi où ça a été divisé par deux. Et là, juste prix avait réussi à augmenter. Donc là, on s'est dit, waouh, si ça se maintient comme ça, c'est vraiment excellent. Puis ça a vraiment baissé autour, un petit peu plus autour, un peu plus de 700 000 téléspectateurs sur le reste de la semaine. Et par contre, ça reste quand même très, très bon sur cible. On est sur une moyenne de 18% sur les FRDA et de 19% sur les 25-49. Donc, c'est quand même... C'est
donc
quand
ils sont devant famille nombreuse, je crois,
à cette heure-là. Certains jours, c'était devant, d'autres derrière sur les FRDA, mais c'est, je crois, tout le temps devant, par contre, sur les 25-49.
Les 25-49.
Voilà. Après, en audience, c'est une bonne moyenne, mais ça demande à être maintenu. Disons qu'ils ont perdu des téléspectateurs dès le mercredi. Peuvent pas se permettre non plus d'en perdre encore d'autres. Si ça descend vers les 600 000 téléspectateurs, ça va être compliqué. Hein. Le Château de Mirage, ça faisait 550 000. Si juste au plus on fait 600 000, ça sera pas un bon retour, clairement pas. Mais si ça se maintient là, autour de 700, 750, ça remonte vers les 800 000 et qu'on tape toujours les 20% sur cible, ça va être très bon. Donc, faut voir, faudra faire un bilan au bout d'un mois, un mois et demi. Mais moi, j'aimerais bien... Enfin, en tout cas, j'ai regardé la première émission. Alors, j'ai pas de souvenir de l'ancien juste prix. Donc, moi, j'ai regardé ça comme un nouveau jeu. Hein. Mais j'ai bien aimé le public bruyant, mais je trouve que ça amène quelque chose au jeu et c'est très bien. Donc, voilà, j'ai beaucoup aimé la pig, là, l'assistant d'Eric Antoine, les jeux, etc. Mais vraiment, j'ai regardé ça comme une découverte, mais j'ai bien aimé. Et par contre, après, je me suis dit, je sais pas ce que va donner Eric Antoine à animer des émissions tous les jours, parce que les tournages, c'est quand même 5 émissions par jour, et du lundi au vendredi, donc ça veut dire que il faut pas non plus être longtemps sur 25 jours. Ouais. Sur 25 émissions, Donc je ne sais pas comment Eric Antoine va gérer ça, lui qui avait l'habitude soit de se créer des spectacles de 2 heures et qui va présenter ça sur une année, soit de faire la France un incroyable talent où il a un temps de parole quand même assez limité et bon. Et ça change assez vite.
Et moi, j'aime bien, plutôt. Moi, j'ai regardé et je trouve qu'il fait l'affaire. Je pense que M6, en tout cas en interne, c'était le seul qui pouvait animer ce jeu, clairement. Moi, je ne voyais pas personne d'autre.
Sur la première émission que j'ai ratée, il était vraiment très, très bien, très aise avec les candidats. Sur la première émission, c'est la très bonne personne. La seule, c'est pas un reproche, parce que c'est est-ce que dans le temps, il arrivera à continuellement se renouveler, comme le font les autres animateurs de jeu et qui sont habitués. S'il y arrive, ce sera vraiment très très bien pour M6, côté de la production. Voilà. Je pense que quand même, ça va être un bon retour, juste prix. Et j'ai réfléchi un peu parce que là, j'ai vu qu'ils mettaient quand même en boîte beaucoup d'émissions. Ils ont déjà mis 10 semaines en boîte. Il y a des dates pour en enregistrer 8 à 10 semaines supplémentaires. Donc, ça fait 20 semaines.
Jusqu'à la fin juin, quoi, peut-être.
Même 20 semaines, c'est quasiment 6 mois, de mars à plutôt septembre, quoi. Mais après, ils vont peut-être couper et puis voilà, reprendre en septembre, etc. Mais je me dis par contre que.
Ou peut-être une diffusion en access durant l'été, non ?
Il me semble qu'ils enregistrent les traites en ce moment. Ils enregistrent les traites.
Il a fait une pause pour enregistrer les traites et il va reprendre là début avril. Et en fait, je me dis, de toute façon, cet été sera particulier. Déjà, je ne pense pas que la route des coffres va revenir. Hein. On va être très honnête. Oui. Je ne sais pas ce qu'ils vont mettre cet été. En même temps, il y aura les JO, il y aura l'Euro, etc. Je pense que dans l'idée, mettre le juste prix à soit même deux épisodes à 17h30, 18h30 ou un seul épisode à 18h30, sur l'idée de tester ça au moins l'été avec voilà, moins de risques, etc. Je pense que ça peut être une bonne idée. Après, c'est clair que je pense que pour qu'il y ait ça, il ne faut pas que le juste prix descende encore plus bas qu'il est. Ils sont déjà qu'à 9% des 4 ans et plus. S'il n'y a que les 700 000 téléspectateurs qui suivent, ça va être compliqué en access. Donc à voir. Mais par contre, je pense que c'est une bonne première. Et puis voilà, ça demande juste d'être confirmé d'ici un mois et demi.
Merci Benji. Cédric, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce retour ? Au même moment, on apprend dans Le Parisien que TF1 aussi surveille de très près l'affaire du juste prix, que si ça marche plutôt bien, TF1 aussi envisage de relancer un jeu sur son antenne.
Bah, c'est bien, ça lance une nouvelle dynamique. De toute façon, M6, on va dire qu'en ce moment, c'est pas forcément folichon, même si l'accès, grâce à la boulangerie, ils sont quand même en train de remonter. Mais bon, ça faisait quand même plusieurs mois qu'ils étaient en difficulté, même si bon, on a remarqué que malgré que le juste prix et un bon lancement, ça n'a pas forcément eu d'impact sur
la boulangerie. Ouais.
Après, la question que je me pose, parce que j'avoue que j'ai pas regardé après en direct, c'est je sais que les deux premiers jours, il n'y avait pas de pub, je crois, pendant l'émission. Peut-être que c'est pour ça après que ça a baissé les jours d'après un petit peu. Je sais pas si quelqu'un
sait. C'est vrai, moi aussi, j'ai regardé en replay, j'ai pas regardé en direct.
Donc... C'est vrai que le premier jour, bah, c'était non-stop, quoi. Il n'y a pas eu de publicité pendant l'émission. Donc, des fois, c'est ce type de truc qui peut jouer un petit peu, quoi. Parce que, mais sinon, bon, bah, non, mais ça fait le taf. Hein, de toute façon, alors oui, c'est vrai que bon, ça gueule énormément hein, au niveau du public. Faut baisser le potard, là, parce que c'est beaucoup trop. Mais sinon, après, bon.
Le plus et le moins qui disparaît lors de la vitrine.
Oui, bah, de toute façon, on sait que c'est M6 et qu'ils ont un peu moins d'argent et qu'ils n'allaient pas s'amuser à proposer une vitrine tous les jours.
Donc, oui, c'est impossible.
Et très franchement, je pense que.
Surtout que je crois à l'époque, il y a quelqu'un qui a dit sur les réseaux qu'à l'époque, c'était pas la vitrine n'était pas quotidienne. À l'ancienne, je sais pas, faudra peut-être.
À l'ancienne version, je crois avoir lu ça également. Par contre, je ne sais pas comment ça se jouait. Par contre,
Parce que là, maintenant, c'est les quatre gagnants des quatre premiers jours qui s'affrontent le vendredi. Voilà.
Oui, qui font une proposition au plus proche je sais pas combien d'euros près. Il n'y a pas une connerie comme ça. Enfin bon, on s'est fait en sorte qu'elle soit quasiment jamais gagnée, hein, ou très rarement, quoi, de toute façon.
Oui, parce que si elle est gagnée chaque semaine, ils vont faire une banqueroute.
Non mais voilà, le but c'est que ça leur coûte pas cher. Alors certes, ça va coûter globalement 1000 balles d'aspirateur et un petit voyage à chaque fois. plus des boîtes de conserve qui font gagner. Donc bon, globalement, c'est faire en sorte que ça coûte pas super cher. Mais bon, après, pour après très franchement, je sais pas si la fin, entre guillemets, de savoir le plus, le moins, si le téléspectateur est tellement bouleversé de cette annonce et de ce changement de jeu.
Oui, c'est peut-être plus les téléspectateurs de la gaffe à l'époque, parce que regarde, Benji connaissait pas cette formule et ça l'a pas dérangé.
Non, mais voilà, exactement. Après, les gens connaissent, les gens savent que bon, il y a une différence. Mais est-ce que ça va les bouleverser de se dire, oh mon Dieu, il n'y a plus de vitrine tous les jours, oh mon Dieu, il y a plus le c'est plus, c'est moins pour gagner. Tes spectateurs, s'il est là avant, il est venu pour voir les jeux un peu simplistes, du tyrolien, du mini-golf, du machin, enfin, ces trucs qui sont pas non plus, voilà, d'une grande révolution, hein. Donc, je pense que le téléspectateur, s'il vient, il vient pas uniquement pour avoir un C+, C- à la fin de son émission. Quoi. Donc, franchement, ça change pas grand-chose.
Benji, peut-être, je vois qu'il voulait peut-être conclure sur ce sujet.
Non, j'ai fait ma petite enquête pendant que Cédric parlait. Donc, il n'y a pas eu de pub le lundi, mardi et mercredi. Et il y a eu une pub le jeudi et vendredi. Donc, la baisse du mercredi, elle n'est pas due à la pub, vu qu'il n'y en a pas eu. Et il y a eu une pub à partir du jeudi vers 18h05.
D'accord. Ok.
Donc, bah, c'est la baisse quand même du mercredi, parce qu'en fait, c'est celle-là qui est importante. En soi, la pub n'a pas eu d'effet négatif sur les audiences, puisque jeudi, vendredi, ça restait stable. Mais la baisse du mercredi, elle n'est pas due à la pub.
Le temps de la pub, à peu près, c'était combien? 5 minutes?
J'en ai aucune idée. J'ai juste vu qu'il y avait des pubs.
Ah, okay. Voilà, donc bah, on verra ça de très près. On reste toujours sur M6, là, c'est vrai qu'il y a quelques semaines, un peu, on les critiquait pour manque de motivation au niveau des programmes. Bah, là, on a appris une autre info, c'est qu'elle va se mettre aussi au talk show, puisque Le Parisien, c'est déjà il y avait un bruit de couloir, mais là, Le Parisien l'a confirmé. M6 va lancer un nouveau talk show, La Grande Semaine, un programme hebdomadaire qui est attendu le samedi en avant-soirée, qui sera produit par Winterprod, la société d'Hugo Clément. Et du producteur de Quelle Époque avec Léa Salamé sur France 2. Ça sera Ophélie Meunier qui animera ce nouveau talk. Alors, c'est pas le talk de l'année, hein, ça, donc elle sera aux côtés d'une bande de chroniqueurs avec qui elle va revenir sur l'actu de la semaine avec un invité en seconde partie d'émission. Alors, parmi les chroniqueurs, on va retrouver Enora Malagré, l'ancien journaliste de quotidien Baptiste Demontier, l'animateur de Skyrock Aymeric Berco, ou encore les humoristes Chicandier et Thomas Croisière. Alors, le choix de la case du talk show le samedi en accès, ça me fait penser un peu au choix qu'ils avaient fait à l'époque avec Valérie Damido il y a une dizaine d'années avec Y'a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ils avaient aussi diffusé vers 18h le samedi, ça n'avait pas trop fonctionné. Donc là, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, est-ce que vous y croyez ou pas à ce projet de talk show, donc La Grande Semaine avec Ophélie Meunier, Cédric?
Bah de toute façon, et voilà, comme on disait, si c'est dans une dynamique de vouloir changer des trucs et de vouloir lancer des nouvelles choses, alors oui, en effet, si on se rappelle que des imbéciles ne changent pas d'avis, c'était pas ça, enfin, ça n'a pas rencontré du tout son succès, hein. De toute façon, le week-end M6, à part 66 minutes, ils ont pas grand chose, hein.
Ils ont le sentiment,
en inédit, je veux dire, qui fonctionne.
Ouais, On a le sentiment qu'ils veulent aussi qu'ils aient un programme fort le samedi à 19h aussi. C'est un peu...
Ça, et puis avoir une émission d'accueil, c'est quand même important, hein, sur une chaîne qui veut avoir une envergure, même si on voit que, bon, c'est pas forcément le cas sur TF1, même si récemment, ils ont ajouté Camille Image, mais bon, leur plus grande émission d'accueil, TF1, c'était les 12 coups de midi jusqu'à présent, donc voilà.
Avec Reichmann, Jean-Luc Reichmann.
Voilà, sachant que les trois quarts du temps, c'est fait pour faire de la promo pour Léo Mattei, donc... Mais après, bon, voilà, on sent que c'est bon, c'est le concept, je présume, ne va pas être révolutionnaire, hein. Après, oui, c'est vrai que ce qui est dommage, c'est que l'an dernier, ils aient raté le fait d'avoir pu lancer le Grand Cactus en France. Mais
à l'époque, en même temps, je crois que c'était Marie Portolano qui était pressentie,
ou je sais plus exactement, mais c'est possible. Mais de toute façon, on avait fait un truc très mauvais, parce qu'on est très mauvais pour faire ça. On n'arrive pas à faire des émissions.
Oui, là, ça sera un truc un peu une émission de bande de débat d'actu. Voilà,
j'ai peur que ça soit un peu classique, c'est tout.
Voilà. Et sur le choix d'Ophélie Meunier, donc un peu ça peut se comprendre, parce que c'est vrai qu'elle était un peu cantonnée qu'au zone interdite, elle faisait pas grand chose, donc peut-être que voilà, elle voulait un peu évoluer.
Ouais, bah c'est très sympa pour elle. Hein. Bravo à elle et pour ce nouveau défi qui l'attend.
Ouais, bon, pas trop convaincu a priori de ce que
franchement, j'en ai pas grand chose à foutre, je t'avouerai. Donc, mais j'essaie de m'intéresser au sujet, tu vois. C'est, bon, j'avoue, ça sent pas. Ressent.
Si, je te jure, ça sent que t'attends ce programme. Franchement, ça s'entend. Franchement, moi,
on va pas se mentir.
J'entends que t'as hâte le mois d'avril, samedi à 19h, pour regarder ça, pour revoir Enora Malagré qui manque si tant à la télévision.
Non, mais mon ref, il y a rien de révolutionnaire dans le machin, c'est une émission de bande. Je sais pas, ils vont dire, on va faire un peu de médecine, on va appeler Jimmy Mohamed. Oh là là, on va faire un peu de décoration. Dis donc, et si on appelait Sophie Firjani, enfin, ils vont faire tout et n'importe quoi avec ce truc.
Là, tu nous fais une bonne
choix. Oui, bah oui, non, mais globalement, alors de toute façon, j'ai rien compris au concept de ce qu'ils allaient faire. Donc voilà, ils prennent n'importe qui autour d'une table et puis on les fait parler. De toute façon, c'est ce que tout le monde fait. Donc,
on continue. Benji, toi, qu'est-ce que t'en penses donc ce projet de talk? Donc samedi à 19h, donc on s'investit, on voit qu'ils s'attaquent un peu, que ça soit en semaine, mais aussi en week-end.
Quoi dire, hein.
Oui, c'est ça. Tu m'as perturbé là, voilà.
Alors, juste avant, je voulais juste compléter le truc de Cédric. Il y a que les investis
qui comptent.
Déjà, un, j'ai découvert cette émission. Enfin, je viens de découvrir du coup l'émission. Deux, donc, c'était programmé le samedi à 17h20. Ça avait fait 1 million à la première et seulement 480 000 à la dernière, wow. Soit 50% de 80 plus. Enfin, la chute, quoi. Vraiment, en quelques numéros, ça avait clairement pas pris. Sur l'idée, tout le monde a été visiblement impressionné par Quelle Époque et tout le monde veut maintenant son club show. TF1 a essayé avec Camille Image, ça marche pas du tout, mais bon, voilà.
C'est vrai qu'on en parle pas trop, mais Camille Image, non, oui, mais c'est non. Pas... Ouais.
On n'en parle pas, c'est mais pas bon, je veux dire, l'autre mardi, par exemple, Camille Image fait à peine 12% de 4 ans et plus, et un peu plus
sur les femmes. Si je te coupe, je trouve qu'ils n'ont pas trop de contenu. Encore cette semaine, je suis tombé sur une séquence où il y avait Lenny de la Starac qui faisait un message à Arnaud de sa mère. C'est bon, la Starac, ça fait 2 mois qu'elle est finie. Je veux dire, j'ai le sentiment que l'émission, ils n'arrivent pas
non,
trop.
Non, mais ils avaient raconté contenu. Un peu une histoire un peu autour d'Arnaud de sa mère qui aimait bien Lenny ou je sais plus quoi. Il y avait une histoire.
Je trouve qu'ils n'ont pas trop de contenu. Ils n'arrivent pas trop à meubler leur émission. Je sais pas.
Après, j'avoue que moi, ça fait un moment que j'ai pas regardé parce que franchement, les premières, c'est bon, tu fais un best-of de machin.
Bon, excuse-moi, je t'ai coupé, Benji, vas-y.
Ouais, pareil, non,
les Camille Image fait 12% de 4 ans et plus, alors qu'ils sont derrière Koh-Lanta, qui pour la P2 fait quasiment 25% de 4 ans et plus, et où on se rappelle juste Une Famille en Or à quasiment minuit, ça faisait 1 million de téléspectateurs et 15, 16, 17% de 4 ans et plus, donc un pauvre jeu, entre guillemets. Juste Une Famille en Or faisait bien plus que ce talk show, et je suis plus que convaincu que ça coûtait entre 4 et 10 fois moins cher. Donc franchement, c'est pas ça marche pas, ça a pas marché le jeudi et ça marche pas le mardi. Et là, M6 va essayer. Alors ils viennent sur le samedi qui est une case catastrophique. Actuellement, quand même, leur après-midi, c'est quand même 4h30 de rediff de chasseurs d'appart de 3, 4, 5 ans.
En plus, ça tombe pas trop en ce moment avec le contexte avec Stéphane
Plaza. Il va falloir peut-être réfléchir à une autre programmation le samedi. En access d'ici la rentrée, mais quand ils programment Chasseurs d'appart, ça fait 800 000 tout l'après-midi, quand ils programment des nouvelles émissions, ça fait 500 000 téléspectateurs. C'est vrai que quand on voit ça, on se dit, mais pourquoi investir dans cette case? Alors, en même temps, M6, le samedi, c'est sa journée noire, ils font pas d'audience du début à la fin de la journée, donc bon, c'est bien d'essayer, mais franchement, j'ai quand même peu d'espoir sur ça. En plus, ça va être en access, donc ça va être quoi, 18h30, 19h45, un truc du genre, ou même 19h, 19h45. Donc ça va être face à quoi? Face à Célébdo. Ils vont se battre avec Célébdo. La comparaison va être désastreuse parce qu'ils vont faire moins que France 5 qui est installé et qui fait le million le samedi. Bah, franchement, je vois mal que ça fasse plus qu'un million de téléspectateurs la grande semaine. Donc bon,
plus, ça sera lancé avril, début du printemps, donc il y aura moins de monde aussi.
Oui, il y aura moins de monde. Enfin, je veux dire, après, ça peut être. C'est en fait, c'est que ça peut être facilement déprogrammé en quelques émissions et voilà. Mais je pense. Enfin, ça m'étonnerait que ça marche. Je serais le premier très très surpris, que ça marche.
Et pour finir, Anton, donc sur ce talk show avec Ophélie Meunier, qu'est-ce que tu en penses en quelques mots?
Moi, à part les telles choses, c'est pas trop mon truc. À part que je regardais avant. Je sais pas si c'est considéré comme des talk shows. D'ailleurs, c'est je regardais en direct, on est en direct et
Ça, oui, ça date un peu.
quotidien. Mais
Avant.
pour ce qui est des talk shows le week-end, non, je regarde pas trop
Ouais, t'es
trop.
pas trop grand fan. Bon, ben,
Non, mais
on verra
Revivre
M6. Mais en tout cas,
peut-être.
on verra. Mais en tout cas, M6, c'est vrai, on peut pas le nier. On le voit même avec le lancement là, de sa
Ils
nouvelle
essayent, ils
plateforme.
essayent.
Ils essayent. Ils essayent. Donc, après, est-ce que ça marche ou ça marche pas? Ça, c'est. Voilà, mais ils essayent. En tout cas, faut le souligner. Voilà, donc pour le dos, on clôt le dossier M6. On passe tout de suite à l'autre grosse info média de la semaine. C'est donc le groupe BFM RMC qui va changer de propriétaire. Ça a été annoncé cette semaine donc par voie de communiqué. C'est vrai que ça faisait déjà quelques mois qu'il y avait une rumeur qui bruissait. C'était d'ailleurs Clément Garin qui l'avait révélé que le groupe Atlis et le groupe de Rodolphe Saadé étaient en négociation pour un possible rachat. Alors après, Atlis avait fermement démenti. Ben, finalement, ça s'est fait. Hein, donc ça a été officialisé cette semaine donc dans un communiqué envoyé à la presse. Atlis France donc qui a annoncé entrer en négociation exclusive avec le groupe CMA CGM de l'armateur franco-libanais Rodolphe Saadé. L'opération sera soumise aux conditions préalables usuelles et à l'obtention des autorisations réglementaires applicables. Elle devrait être finalisée au cours de l'été 2024. Donc c'est en plus un timing intéressant parce qu'ils le font juste avant le renouvellement des fréquences, parce que s'ils l'auraient fait juste après, le groupe Atlis aurait été bloqué. Donc déjà qu'ils sont criblés de dettes, c'était le timing idéal pour ce rachat qui devrait donc être finalisé à la fin de l'été. Alors c'est vrai que le groupe justement de Rodolphe Saadé, eh ben, il commence d'être de plus en plus influent dans le monde des médias. Il détient au niveau de la presse locale, hein, la Provence, la Tribune récemment, puis ils ont également des parts chez M6, 10%, et
Et
ainsi que
ce matin.
sur le média également brut, le média digital brut. Donc on voit, il est de plus en plus présent, et ça va être aussi intéressant le contexte, puisque donc là, il va avoir le renouvellement des fréquences. Les dirigeants justement du groupe CGM vont être entendus par l'audition, vont être entendus à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'a annoncé Quentin Bataillon dans le cadre justement de cette commission d'enquête dont on parlera un peu plus tard. Puisque justement, voilà, vu qu'ils vont être des nouveaux acteurs à la TNT, là, ils veulent entendre donc ces dirigeants et puis surtout le contexte hein, où CNews prend de plus en plus de l'ampleur et on devrait sans doute voir Marc-Olivier Fogiel quitter son poste de directeur général de BFM. Qu'est-ce que vous en pensez donc de cette information, peut-être Benji, donc avec de gros changements à venir sans doute pour BFM?
Alors, de gros changements, oui, sûrement. Alors, pas à court terme, c'est-à-dire que jusqu'à la fin de la saison télé, BFM restera BFM avec tous ses fondamentaux. Après, la question, c'est quel ton est-ce qu'ils vont vouloir donner à BFM TV? Est-ce qu'ils vont arrêter on va dire, pipolisation de BFM TV qu'a engagé Marc-Olivier Fogiel? Comment on peut dire? Est-ce que BFM TV va se recentrer sur le hard news, sur le reportage, sur autre chose? Ce sera vraiment la question qu'il va falloir répondre pour la saison prochaine. Après, moi, j'étais quand même ultra surpris du montant. C'est il y a
Oui,
1,55
j'ai oublié de le
milliards
dire. Hein.
d'euros. Il y a juste 2 ans, c'était quasiment jour pour jour, c'était M6 et TF1 qui annonçaient leur fusion, maintenant avortée, et ils vendaient donc Altice, Sister et TFX et les chaînes payantes. Donc en 2 ans, on est passé quand même de Altice qui voulait 2 chaînes de plus à Altice qui vend toutes ces chaînes. Et à l'époque, c'était 50 millions d'euros par point d'audience. Donc c'est-à-dire que TFX et Sister, grosso modo, c'était 3%, donc 150 millions d'euros. Là, on a 3 chaînes, BFM, RMC Story, RMC Découverte, la radio
Franco.
RMC, plein de petites chaînes, plein de petites chaînes locales, BFM Business aussi, etc. Mais est-ce que ça vaut franchement 1,55 milliard d'euros? Franchement, loin d'être sûr. Je pense que BFM, financièrement parlant, fait une excellente opération. Et après, ça permet à Rodolphe Saadé de construire son empire. Et peut-être que
Oui, voilà,
dans
il y a
4
aussi un rapport d'influence.
Et peut-être que dans 4 ou 5 Non, je crois, oui, 5 ans quand même, des renouvellements du groupe M6, hein, on aura passé le délai. Peut-être que Rodolphe Saadé rachètera M6 et BFM TV sera la chaîne info du groupe M6. C'est totalement une possibilité à moyen terme, on va dire. Mais c'est très intéressant. On n'a pas été, enfin, moi, je n'ai pas été très surpris. Et après, je ne sais pas ce que Rodolphe Saadé veut faire de BFM TV et des autres radios, des radios et des autres chaînes. C'est vraiment la question qu'on va...
Alors, a priori, dans les noms qui circulent, pour remplacer Marc-Olivier Fogiel, on parle de Laurent Guimier. Laurent Guimier qui avait lancé à l'époque France Info, donc France Info qui était plutôt sur un modèle pas trop débat, plus de hard news avec des journaux. Donc après, avoir la patte Guimier... voilà, qui était à l'époque au service public. Donc, ce qui parle, voilà, Laurent Guimier à la direction générale et Bruno Jeudy, qui est éditorialiste d'ailleurs sur BFM, qui pourrait être le directeur de la rédaction en remplacement de Philippe Corbet, qui était à cette place. Donc, ça reste que des rumeurs et c'est des infos de Clément Garin, je précise. Cédric, toi, donc sur ce nouveau propriétaire qui arrive pour BFM TV et RMC avec de nouveaux changements et CNews, donc, qui est de plus en plus forte, qui talonne BFM.
Bah, de toute façon, ça arrive, ouais, dans un contexte un petit peu particulier pour BFM TV, qui actuellement est en délicatesse de sa place de leader, que pour le moment, sur le mois, elle maintient, même si c'est souvent dû, enfin c'est souvent grâce quand même au week-end qui sont un petit peu plus forts que ces news, alors que la semaine, bon, il y a quand même aujourd'hui, je crois, au moins 0,3 points de différence quasiment tous les jours, donc ça commence à devenir très très embêtant. Et puis avec tous les événements qui a pu avoir, les changements de grille, l'échec de Laurent Ruquier, le départ de Bruce Toussaint de BFM TV qui a quand même mis à mal, je pense, une bonne partie de la grille et des habitudes que pouvaient avoir les téléspectateurs de BFM TV. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, bah, ce qui fonctionne le plus, c'est les débats, forcément quand on voit ces news. Donc quelle va être la stratégie qu'ils vont adopter, c'est sans doute ce qui est le plus intéressant, et sans doute qu'on aura une idée assez récemment, vu qu'on va peut-être pas forcément attendre juin, peut-être qu'on aura déjà des réponses au moment des auditions pour le renouvellement des fréquences, parce que oui. Je pense que le projet, bah, qui sera développé devant la commission, bah, sera celui de Saadé et pas une espèce de continuité de ce qu'il y a aujourd'hui. Donc je crois que les auditions ont lieu assez vite pour après les dépôts. Donc on devrait même savoir avant juin ce qui devrait se passer sur BFM TV.
Oui, parce qu'en fait, le plus probable, c'est qu'on ait les changements à l'antenne à partir de septembre, parce que c'est généralement là qu'il y a la grille des programmes qui changent. Comme l'a dit Benji, ça ne devrait pas trop bouger jusqu'à la fin juin. Voilà, ça, on devrait avoir...
Non, bah, de toute façon, il n'y aura pas de rachat avant fin juin, donc de toute façon, ça ne bougera pas. Donc après, une fois que c'est racheté, oui, les changements durant l'été, et puis après, une nouvelle grille en septembre, hein. De toute façon, c'est ce qui nous attend. Nouvelle grille, enfin, après, une chaîne info extrêmement modulable, oui. Donc vu qu'ils n'ont pas besoin...
Voir si peut-être ils vont faire comme ces news, peut-être mettre plus de débats et moins de journaux.
Après, on est quand même...
C'est déjà le cas aujourd'hui, il y a les journaux, c'est quoi, de midi à 17h. Après, le reste de la journée, c'est que des émissions d'échanges, de débats, d'invités.
Après, il ne faut pas oublier que quand même, Saadé est un personnage qui quand même est une autre facette de... Enfin, il est un petit peu contre l'Empire Bolloré, donc il oui, va voilà, quand même avoir un petit peu... Forcément, on ne va pas se retrouver sur un modèle à la CNews, c'est sûr. Donc on va se retrouver, je ne sais pas avec quoi on va se retrouver. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça sera forcément une contre-proposition de ce qui existe. Et alors, comment est-ce qu'elle va se moduler et à quoi ça ressemblera? De toute façon, dans ce genre d'affaires, quand on est un milliardaire et qu'on recherche, qu'on rachète un aussi groupe média, c'est aussi avoir de l'influence, c'est aussi
voilà, la présidentielle qui arrive. Oui, exactement. Voilà, donc on va suivre ça aussi, ce dossier de très près. Justement, en parlant des fréquences TNT, ben, c'est un peu le spectacle, hein, cette commission-là sur les fréquences de la TNT. Ça s'est poursuivi cette semaine avec... moi, je suis désolé. Franchement, les questions qu'ils posent, je me dis, c'est quoi le rapport avec le renouvellement?
Non, mais c'était terrifiant, franchement.
Franchement, je me dis, mais à quoi sert cette... Franchement, je suis curieux de voir le rapport à la fin, les préconisations qu'ils vont faire, parce que les questions qu'ils posent, Mais je me dis, c'est une interview ou c'est une commission d'enquête? Parce que, alors là, cette semaine, il y avait deux invités de marque. Il y avait Vincent Bolloré et Cyril Hanouna. Alors, on va peut-être démarrer par quelques propos, ceux de Vincent Bolloré. Donc, Vincent Bolloré, qui était, moi, j'ai regardé, qui était plutôt resté droit dans ses bottes. Hein, voilà, il a défendu, il a dit ses propos, il ne s'est pas laissé démonter. Alors, il affirme qu'il n'a aucun projet idéologique. Je suis tout doux et débonnaire et pas du tout un Attila. Par contre, il y a un propos un peu qui moi m'a un peu choqué, c'est qu'il est revenu sur l'avortement de sa femme. Il a déclaré que l'avortement était quelque chose de terrible où deux libertés se heurtent, la liberté des gens à disposer d'eux-mêmes et celle des enfants à vivre. L'homme, l'homme qui est donc d'une famille catholique bretonne, riche et célèbre. Donc c'est vrai que voilà, il dit que c'est un événement qui l'a perturbé. Je trouve que c'est pas très malin de sa part de dire ça quand justement sur son antenne, l'IVG a été indiqué comme une cause de mortalité dans le monde. Ça, j'ai pas très bien compris normalement pour quelqu'un qui est censé être intelligent. Et puis sur CNews, catalogué d'extrême droite et compagnie, les critiques habituelles, il affirme tout ça, c'est des tartes à la crème. Peut-être un mot sur l'audition de Vincent Bolloré. Est-ce que toi, tu l'as suivi, Cédric?
Oui, bah j'ai regardé les deux. Hein. De toute façon, il fallait être au courant que les autres interventions existaient hein, pour les autres groupes.
Après, on parlera celle de Hanouna.
Parce oui, que d'ailleurs, franchement, oui, on n'en a jamais entendu parler avant ça. Hein, ouais. Globalement, hein, c'est un peu l'idée. Hein. De toute façon, on ne va pas se mentir. C'est pas pour défendre non plus le groupe Bolloré, Hanouna, etc. Mais globalement, la commission d'enquête qui a été lancée était globalement pour les interroger eux. Le reste, c'est de la poudre aux yeux pour dire on va poser des petites questions aux autres quand même parce qu'on est obligé machin, mais en fait nous ce qu'on veut c'est leur parler à eux. Franchement, on était face à un espèce de spectacle assez affligeant avec des questions où des fois en fait, le problème, c'est que ils viennent tous, ils ont tous plus ou moins la même question. Alors forcément, les groupes politiques, le RN était tout là, tout gentil, en disant « Ah oui, vous êtes quelqu'un de bien, monsieur, je vous aime bien, petit bisou, oh là là, qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite ?» Le problème étant que c'est quasiment eux qui posaient les questions les plus pertinentes pour savoir sur quelle était leur vision du futur, qu'est-ce qu'ils comptaient faire. C'était ça qui était un peu terrifiant, quoi, qui correspondait peut-être le plus, des fois, aux questions qu'il fallait poser. Parce que, alors oui, en plus c'était extrêmement mal tombé. Alors je vais pas parler de cette semaine, je vais peut-être plus parler du groupe Canal+ qui était là la semaine d'avant, ou très franchement le week-end d'avant et ces bandes d'imbéciles.
Ouais, avec l'IVG. Ouais.
Et c'était avec l'IVG. Alors quasiment toutes les questions concernaient ça. À un moment donné, les gars, vous avez posé une fois la question, vous avez posé deux fois la question. Il y a encore un député qui revient dessus, et encore un autre. À un moment donné, passez à autre chose. Oui, certes. Et ils ont répondu. Donc, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Après, il faut poser des questions qui étaient plus en rapport avec le thème.
Ouais, après, que non plus, ils n'étaient pas très précis. C'est pour ça, à mon avis, ils l'ont relancé. C'est qu'après, ils l'ont dit, oui, on n'a pas lancé la bonne version.
En même temps, c'est du foutras ce qu'ils ont raconté. Oui, enfin, ils ont raconté n'importe quoi. Il y a une erreur technique, on ne sait pas comment c'est possible. Ouais, mon cul, la balayette, bien sûr que tu sais comment c'est possible. Enfin, franchement, c'était un peu ridicule. Mais après, de toute façon, derrière, ils ressortent. Alors oui, on sait que la plupart, ils passent leur temps à mentir et à pas forcément dire exactement la vérité.
Sincèrement.
Oui, mais enfin bon, ils ont rien à secouer. Qui va prouver le contraire Qu'est-ce qui va leur arriver derrière? Ouh là, ils vont avoir une tape sur les doigts. Ouais, c'est bon. très franchement. Globalement, ils étaient là pour, enfin, il y en a un qui était, il y en a, de chaque côté, ils étaient là pour, essayer de se foutre sur la gueule, parce que forcément, il y a des intérêts, de chaque côté. Mais, en plus, le dédain du mec qui est co-président de la machin, là.
Ah, le rapporteur,
oh là là là, mon dieu, mais quelle horreur. Puis en plus, les questions, des fois, enfin, sérieusement.
Parfois, je trouvais qu'il avait des bonnes questions, mais parfois, ça se voyait aussi qui voulait se faire, il voulait avoir une séquence. Mais après, moi, il y a certains propos, en tout cas certaines questions qui étaient intéressantes à poser.
Je dis pas que tout est acheté, mais sur le forcément après sur les questions qui arrivaient après et qui n'étaient pas forcément en rapport, on était là. Franchement, la question sur vous avez de bons avocats, Enfin, franchement, où il demande à Vincent Bolloré s'il a de bons avocats, parce qu'à chaque fois, ils ont intenté des procédures qui étaient un peu des procédures bâillon. Donc, il y a certes une question qu'il y a derrière, mais...
En fait,
c'est la manière de faire que tu dis, non mais les gars, ok, vous voulez poser une question, ok, vous posez-la directement, et il n'y a pas des espèces de relances en disant, oh, j'ai fait une petite pique intelligente. On n'était pas là pour ça. Enfin, à un moment donné, si on veut vraiment se poser des questions, on n'est pas là pour faire un spectacle. En fait, vous jouez au même jeu auquel jouent vos interlocuteurs. Donc, à un moment donné, voilà, quand Sirena arrive avec ses propos sur qui a pu dire machin Saint-Oul là sur Olivier Véran en disant que je sais plus exactement, enfin quand il lui renvoie la pique, c'est-à-dire qu'il l'a prévu et qu'il sait exactement que l'autre avait lui foutre des trucs dans la gueule. Donc à un moment donné, on était en fait au spectacle, uniquement au spectacle. Ils en avaient rien à foutre de la commission d'enquête pour savoir si machin.
Je me dis, mais à quoi elle sert ? Je comprends pas, c'est pour ça on va attendre un peu.
Pourtant, le sujet est très intéressant. Hein.
Oui, il est intéressant.
Mais le problème, c'est que des fois, les questions étaient hors sujet. Tu disais, il y a la commission de machin, et l'autre, après, lui posait des questions, même pour Bolloré, sur est-ce que vous avez utilisé des enfants pour travailler au Gabon dans les champs de coton ? Enfin, d'accord, oui, c'est une question importante, mais est-ce que c'est une question importante pour la commission ? Je suis pas certain.
Alors sur Cyril Hanouna, quelques propos, lui c'était le lendemain, et alors il affirme on a fait plus de 5000 heures de direct, les faits pour lesquels on est ici aujourd'hui représentent seulement 0,1% de l'antenne, je trouve qu'on s'en sort bien, on a des amendes qui pour moi sont disproportionnées, il affirme également qu'il subit un acharnement qu'il attribue à son succès, mon franc-parler, ma liberté dérange, il affirme sur la notion d'antenne qu'on peut beaucoup moins rire aujourd'hui à une certaine époque, et tous les humoristes vous le diront, aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué de faire de la télévision de talk show, sur les fausses informations, notamment sur la drogue du zombie à Rouen, ou encore la dénochrome avec Myriam Palomba, il affirme cela a pu arriver, on a pu se tromper, ce n'est pas dramatique, on n'a pas été les seuls à se faire prendre par cette fausse information. C'est Benji sur cette commission, sur cette commission de Vincent Bolloré et Cyril Hanouna.
Alors, je ne sais pas regarder entièrement, j'ai vu énormément d'extraits. Voilà. Alors, j'ai trouvé l'attitude de Vincent Bolloré exceptionnellement intelligente, dans le sens où on s'attendait à ce qu'il se fasse démonter, enfin, on connaît sa réputation, etc. Et au final, il n'y a qu'un seul grand gagnant de cette commission, en tout cas au bout d'une heure, une heure et demie de questions, c'est lui. Il a parfaitement répondu aux questions. Les députés n'avaient, enfin, les questions étaient toutes pourries de la part des députés. Il a parfaitement répondu. Il est passé vraiment pour l'homme le plus gentil de la terre, ce qui est quand même incroyable. On connaît ça. Non, mais c'est vrai.
Oui.
Au fond, on sort de cette commission.
Oui, parce qu'il veut évoquer sa réputation. Sa réputation de management de la terreur.
C'est dire si les questions des journalistes étaient très mal préparé, puisque, et qu'il n'y avait pas de répondant, puisque ça ne doit pas se passer comme ça. Donc, il y a eu un vrai problème. Il y a un vrai problème. Enfin, un député ne sait pas poser de questions. Hein. C'est là où on se rend compte que journaliste est un vrai métier, parce que les députés ne savent pas poser de questions. C'est impressionnant. Donc, sur Vincent Bolloré, moi, j'étais tellement étonné des questions, et que, surtout, de l'intelligence de Vincent Bolloré, il peut super bien répondre à ces questions toutes pourries, et je pense qu'il n'a pas pu anticiper des questions si pourries que ça. C'est pas possible qu'il se soit entraîné avec des questions aussi pourries que ça, c'est pas possible. Donc, vraiment, voilà, pour Vincent Bolloré. Et pour Sienna, donc, pareil, je ne vais pas regarder en direct, mais j'ai vu énormément d'extraits. Beaucoup avaient des questions à poser à Sienna qui n'avaient rien à voir. Rien à voir avec l'attribution des chaînes de TNT. Déjà, d'ailleurs, est-ce que Cyril Hanouna a un vrai enjeu dans les fréquences d'attribution des chaînes TNT ? Bon, déjà, ça se dispute. Là, sur le
Le relier, c'est par rapport aux sanctions, souvent, par rapport à la maîtrise de l'antenne, est-ce qu'il respecte les conventions ? Qu'a-t-il fait à la suite ? Ça peut se comprendre, même si tu as tout à fait raison. C'était aussi pour avoir un coup de projecteur. Et la preuve, il y avait plein de journalistes cet après-midi-là. Donc...
Voilà, ça, techniquement, ça justifie, très honnêtement. Hein. C'est un coup de com' à 99%. D'ailleurs, déjà, on découvre qu'il y a énormément de commissions d'enquête à l'Assemblée nationale. Beaucoup, on ne savait pas. Et cette commission a démarré en décembre, personne n'en avait entendu parler. Bon, voilà, c'était clairement le coup de com'. Et effectivement, hein, ça fait un mois et demi qu'on parle de cette commission. Là, il y a eu quand même une émission de 3 heures sur un débrief d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale, qui est quand même incroyable.
D'ailleurs, qui a bien marché.
Et qui a rassemblé hors découpage un des meilleurs scores de la TPMP de la saison, 1,4 million de téléspectateurs, mais sur plus de 2 heures, ce qui est quand même incroyable pour un débrief de commission d'enquête d'Assemblée nationale. C'est incroyable.
Donc, ouais, ça a plu aux gens.
Ça a été un coup de com' techniquement réussi, puisqu'au moins les gens ont appris qu'il y avait cette commission d'enquête pour la plupart. Mais après, qu'est-ce qu'il en ressort du fond? Rien, puisque, ok, on peut le justifier d'être invité, mais au fond, ils n'avaient pas de questions à y poser. Hein, et ils ont fait ça pour coup de com', c'est tout. Donc, on est ressorti avec une commission inutile qui, au mieux, a fait passer des gens de Canal pour des bisounours. Voilà ma conclusion. C'est une très belle conclusion.
Ben voilà. Ben voilà, en tout cas, pour cette commission, ça va se poursuivre encore parce que là, ils vont interroger tous les anciens ministres de la Culture, Roselyne Bachelot, Rima Abdulmanak, Flore Pell. Oui. Il va y avoir Roselyne Bachelot et, comme je le disais aussi, il y aura les dirigeants du groupe de Roldov Saadé justement pour parler, puisqu'ils vont entrer également dans la TNT. Ils vont être reçus, auditionnés dans les prochaines semaines. Donc, ça risque aussi d'être intéressant. Et c'est donc déjà la fin de ce podcast. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci Antoine, merci Benji, merci Cédric d'avoir commenté toute cette actu média. Nous revient évidemment la semaine prochaine pour commenter une toute nouvelle semaine d'actu média. D'ici là, passez une bonne semaine. Salut.